Et bonjour à tous et bienvenue à Régis Coulanges pour cette émission, ce rendez-vous mensuel. Il y a eu un peu quelques changements de jour, mais c'est bien aujourd'hui qu'on a rendez-vous pour l'émission sur les droits humains, pour la dignité. Régis Coulanges d'Amnesty International, bonjour.
Bonjour à tous. Au sommaire, nous allons parler pour cette dernière émission avant l'été, de l'Ukraine bien sûr, de la Tunisie. On va parler aussi de la Fédération française de foot, qui doit ramener la coupe à la raison. Je vous expliquerai un peu plus tard. Et puis, je vais parler de deux pétitions qui sont en ligne. Donc, celle concernant le Mondial 2022 et celle sur l'Angola, où une aide d'urgence pour 6 millions de personnes qui sont sous-alimentées est demandée. Ensuite, on parlera des mineurs non accompagnés, de leur situation en France. Et puis, on finira par les activités du groupe Dinois. Donc, nous venons de sortir un nouveau rapport sur suite à notre dernière enquête sur l'Ukraine. Ça s'intitule « Tout le monde peut mourir à tout moment » et ça concerne les bombardements aveugles de la Russie sur la ville de Kharkiv en Ukraine. Depuis le début de l'invasion en février 2022, les forces russes ont semé la mort et la destruction en bombardant sans relâche des quartiers résidentiels de Kharkiv. Tout au long de ces derniers mois, la population de Kharkiv a fait face à un déluge incessant d'attaques aveugles qui ont tué ou blessé des centaines de civils. Nous avons enquêté sur les armes utilisées. Il s'agit notamment de bombes à sous-munitions et de mines dispersables. Ces armes sont toutes interdites par les traités internationaux en raison de leur effet indiscriminé. Des personnes ont été tuées chez elles et dans les rues, sur des aires de jeu et dans des cimetières, pendant qu'elles faisaient la queue pour obtenir de l'aide humanitaire, ou alors qu'elles achetaient de la nourriture ou des médicaments, nous a dit Donatella Rovera, qui est notre chercheuse sur les situations de crise. Selon le directeur du service médical et de l'administration militaire régionale de Kharkiv, 606 civils ont été tués et 1248 autres ont été blessés dans la région. Les bombardements de Kharkiv, où vit 1,5 million de personnes, ont commencé le 24 février, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les quartiers résidentiels dans le nord et l'est de la ville ont été les plus touchés par les bombardements. Nos chercheurs ont trouvé des morceaux de missiles Ouragan 220 mm qui transportent 30 sous-munitions toujours incrustées dans un cratère creusé dans le bitume. Autour de la zone, ils ont également trouvé des pointes et des fragments de sous-munitions et de nombreux autres cratères. Deux autres armes à sous-munitions ont également touché le toit de l'église de la Sainte Trinité, à environ 500 mètres de l'endroit où le missile atterrit. L'église sert de centre pour l'aide humanitaire et les bénévoles y préparent la nourriture et les kits d'aide qui sont distribués aux personnes qui ont des difficultés à se rendre au point de distribution de l'aide humanitaire, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Les missiles non guidés, comme les missiles Grad ou Ouragan, qui ont été largement utilisés par les forces russes, sont par nature imprécis, ce qui fait des frappes de ces missiles dans des zones peuplées des frappes aveugles. Les obus non guidés ont une marge d'erreur de plus de 100 mètres. Dans des zones résidentielles où les bâtiments ne sont pas à plus de quelques mètres les uns des autres, ces imprécisions sont presque certaines de coûter la vie à des civils et de causer de graves dégâts à des infrastructures civiles. Une infirmière de 53 ans nous a dit « Il y a eu un bruit soudain de pétards partout. J'ai vu des nuages de fumée noire à l'endroit de l'explosion. Nous nous sommes jetés au sol et nous avons essayé de nous mettre à l'abri. » Le fils de notre voisin, Artem Tchetchenko, 16 ans, a été tué sur le coup. Son père a eu la hanche brisée et a reçu un éclat d'obus dans la jambe. Il est difficile de dire combien de temps les explosions ont duré. Une minute peut sembler infiniment long. Le 12 mars après-midi, Véronika Tcherevichok, responsable logistique et mère de famille de 30 ans, a perdu sa jambe droite lorsqu'un missile Grad a frappé une aire de jeu devant chez elle, dans le quartier de Saltivac. Elle a témoigné. « J'étais assise sur ce banc lorsque l'explosion a eu lieu. Je me souviens avoir entendu un sifflement juste avant l'explosion, puis je me suis réveillée à l'hôpital, avec une jambe en moins, ma jambe droite avait disparu. Il y a maintenant pour moi une vie avant le 12 mars et une vie après. Je m'habituerai, mais je ne suis pas encore habituée. J'essaie souvent de toucher ma jambe. Je ne sais pas quoi dire des gens qui ont fait cela. Je ne les comprendrai jamais. » Des exemples comme ça, nous en avons énormément recueillis. Nos chercheurs ont enquêté sur 41 frappes qui ont fait au moins 62 morts et 196 blessés, et se sont entretenus avec 160 personnes à Kharkiv pendant 14 jours, en avril et en mai, notamment avec les rescapés d'attaques, des proches de victimes, des témoins et des médecins ayant traité les blessés. Ils ont recueilli et analysé des éléments de preuve des lieux des frappes, notamment des fragments de munitions et des éléments numériques. Voilà, toutes ces données sont collectées et serviront, on l'espère, un jour pour mettre devant la responsabilité les causeurs de cette, les responsables de ces massacres. Voilà, on va maintenant écouter une chanson qui a été Imagine, dans John Lennon, mais qui est chantée par les chanteurs de l'Eurovision.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living. To kill or die for, and no religion to imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can.
Très belle chanson. Je vais vous parler maintenant de la Tunisie. Alors, vous avez sur la chronique d'Amnesty International, qui est le journal de la section française, qui paraît une fois par mois, vous avez tout un dossier sur la Tunisie avec comme titre « L'ombre de la dictature ». Le printemps arabe est un lointain souvenir, l'État policier est de retour. En effet, la Tunisie, vous vous souvenez, avait été... au tout début de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Hein. C'est le premier pays à s'être soulevé. Hein. Les gens sont sortis dans la rue à la suite de l'assassinat d'un marchand ambulant et pour demander plus de liberté. Et c'est comme ça que sont parties les révolutions arabes qui avaient apporté beaucoup d'espoir dans de nombreux pays. Ça avait entraîné la fuite de Ben Ali, hein, le dictateur qui était là depuis pas mal d'années. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que les acquis de la révolution sont maintenant aux oubliettes. La Tunisie est-elle devenue un État policier? On peut se le demander, au vu des coups de force successifs de son président, Kais Saied. Élu à la tête du pays en 2019, L'ancien chargé de cours à la faculté de droit s'est mué en un leader populiste et illibéral. Le 25 juillet, après des mois de paralysie politique, il a instauré l'état d'exception, ordonné la fermeture du Parlement, levé l'immunité des députés et suspendu la Constitution. Depuis, il gouverne seul, ou presque, à coups de décret et en s'appuyant sur son appareil sécuritaire. Le 30 mars, il démettait des députés de leurs fonctions sans s'engager sur la tenue d'élections législatives anticipées, comme le prévoit pourtant la Constitution. Pour justifier ces mesures, il dit vouloir restaurer la souveraineté du peuple et lutter contre une corruption généralisée. Dans des discours virulents, souvent décousus, il fustige les insectes, termites, qui corrompent la nation. Le gars est dans une sorte de délire. Il décrit les partis politiques comme un cartel de narcotrafiquants. Il se voit en sauveur de la patrie et n'admet aucune contradiction. S'alarme un ancien ministre qui préfère garder l'anonymat. Kais Saied détruit, une par une, toutes les institutions créées après la chute en 2011 du président Ben Ali. Le 5 février dernier, la veille de la date anniversaire de l'assassinat d'un militant de gauche, Chokri Belaïd, il dénonce en pleine nuit la duplicité du juge d'instruction qui, en 9 ans, n'a pas élucidé l'affaire. Puis il déclare que le Conseil supérieur de la magistrature, l'un des acquis de la Révolution, appartient au passé. Dans la foulée, il s'arroge une partie de ses prérogatives. Il peut révoquer les juges et indirectement les nommer. L'homme concentre désormais tous les pouvoirs. C'est depuis le ministère de l'Intérieur que Kais Saied a dissous le garant de l'indépendance de la justice. Une façon de nous signifier que nous sommes maintenant sous les ordres de la police, analyse Raouda Karafi. À la tête de l'Association des magistrats tunisiens, elle organise la résistance de la profession. Les juges ont observé 2 jours de grève alors que le nouveau décret le leur interdit. On se croirait revenu à la situation qui prévalait sous Ben Ali, déclare cette éminente juriste qui siège à la Cour de cassation. On sait que certains d'entre nous risquent d'être limogés afin de faire taire les autres. Le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas exempt de reproches, reconnaît-elle, mais c'était une immense conquête. Même mes confrères français étaient jaloux de son autonomie. Je vais vous proposer de changer de table, murmure-t-elle. Un homme s'est assis derrière vous et je pense qu'il enregistre notre conversation avec son portable. Comment l'a-t-elle remarqué? Même en civil, nous reconnaissons les agents tout de suite. À quoi? À leur allure, un regard. Est-elle surveillée? La magistrate réfléchit. C'est peut-être vous qui êtes suivi. Voilà, on est maintenant dans un régime policier en Tunisie, comme au temps de Ben Ali, alors que c'était vraiment le pays du Maghreb qui était le plus avancé au niveau démocratique. Donc c'est vraiment une terrible désillusion. Et on va écouter Julos Bocarde qui chantait « Les loups ont des têtes de mouton ». Et cette chanson est, hélas, toujours d'actualité.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la foule. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un prêt pour le diamant qui, sans gagner, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusillades, pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la four. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Il n'y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice, mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas, qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients, ensemble changent le cours du temps.
Voilà, très, très belle et dure chanson de notre ami Julos Bocarne. Voilà, alors je vais vous parler maintenant de la Coupe du Monde qui va avoir lieu en novembre au Qatar. Nous avons conçu un flyer qui ressemble à un carton rouge. Le carton rouge que présente l'arbitre à un joueur quand il fait une grave faute. Voilà. Et quand on déplie ce carton rouge, on a les éléments de notre enquête. Hein? Voilà. Alors... si vous voulez, cette année, donc la Coupe du Monde de football se déroulera au Qatar. C'est le choix qui a été décidé. Les stades sont de dernier cri, les hôtels de luxe et le personnel est à disposition. Les autorités du Qatar plantent un décor de rêve pour cet événement sportif tant attendu. Mais derrière les paillettes, il y a une terrible réalité. Des milliers de travailleuses et travailleurs migrants sont maltraités et risquent leur vie pour rendre ce mondial possible. Ils ont tout quitté pour gagner leur vie et subvenir aux besoins de leur famille. Ils travaillent sur les chantiers, mais aussi comme femmes de ménage, chauffeurs de taxi ou serveurs dans les restaurants et les hôtels. Conditions de travail et de vie indignes, pertes et retards de salaire, confiscation de passeports, exploitation par leur employeur. Les travailleurs de la Coupe du Monde se retrouvent piégés dans l'enfer qatarien. Des milliers de personnes sont mortes et le Qatar continue de maintenir des employés dans des conditions de travail forcées. Face à cette situation insupportable, nous demandons que l'ensemble des personnes migrantes qui travaillent au Qatar bénéficient enfin de conditions de travail et de vie décentes. Ces 2 millions de travailleurs et travailleuses, principalement originaires d'Asie et d'Afrique, vivent au Qatar. La Coupe du Monde est donc l'occasion de mettre les projecteurs sur leurs conditions de travail et de vie indignes, car les réformes de ces 10 dernières années sont peu ou pas appliquées. Elles et ils vivent toujours un enfer entre maltraitance et exploitation. Jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du Monde en novembre 2022, nous avons peu de temps pour agir pour que les travailleuses et travailleurs migrants du Qatar ne retombent pas dans l'oubli. Alors, quels sont les responsables? Ce sont des responsabilités partagées. Alors, le Qatar, bien sûr, qui est l'un des pays les plus riches du monde, dépend des 2 millions de travailleurs migrants qui y vivent. Ils devraient avoir le droit d'être traités équitablement et d'obtenir justice lorsqu'ils sont victimes d'abus. Le Qatar doit prendre des engagements forts, protéger les droits de l'ensemble des travailleuses et travailleurs et pénaliser les employeurs qui enfreignent les lois. Responsabilité de la FIFA aussi. La Fédération internationale de football, organisatrice du tournoi, a aussi un rôle à jouer. Elle est responsable de l'identification, la prévention, l'atténuation et la réparation des risques sur les droits humains liés au tournoi. Il est urgent qu'elle fasse entendre sa voix pour exiger du gouvernement du Qatar qu'il applique son programme de réforme avant le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Enfin, la FFF, la Fédération française de football, comme toutes les autres fédérations nationales de football, sont directement partie prenante dans l'organisation de la Coupe du Monde. Elles doivent user de toute leur influence pour chercher à prévenir ou atténuer les atteintes aux droits du travail des travailleurs migrants dans le contexte de la préparation et de l'organisation de la Coupe du Monde. Le slogan que nous avons choisi, c'est « Ramener la Coupe à la raison ». En tant que partenaire commercial de la FIFA, la FFF a son rôle à jouer pour dénoncer les atteintes perpétrées contre les travailleurs migrants au Qatar. La Fédération française de football doit dénoncer publiquement les violations de droits humains et intervenir auprès de la Fédération internationale pour faire pression sur le Qatar, afin qu'il modifie concrètement et durablement les conditions de travail des personnes migrantes. La Fédération française prépare son équipe à se déplacer au Qatar pour le Mondial et va utiliser des infrastructures et services liés à la Coupe du Monde. Elle risque d'être donc directement liée à des atteintes aux droits des travailleurs migrants. La Fédération française doit s'assurer que tous les prestataires de services avec lesquels elle sera en lien respectent les droits humains de leurs employés. Il faut se mobiliser pour mettre fin à cet enfer que vivent les travailleurs migrants au Qatar. Alors pour cela, nous serons présents le 29 juin, puisque c'est la fête de la solidarité, à partir de 17h sur la grande place de Digne. Et vous pourrez voir donc notre prospectus carton rouge. Vous aurez également une pétition à signer, pétition que vous pouvez aussi signer sur le site d'amnesty.fr. Le titre, c'est « Mondial 2022, la Fédération française de football doit ramener la Coupe à la raison ». On écrit au président de la Fédération française de football, voilà, en lui demandant publiquement, il faut demander à la Fédération internationale de s'assurer de mettre un terme aux violations des droits des travailleurs et d'accroître les pressions sur les autorités du Qatar afin qu'elles y mettent fin dans le pays. Lors des déplacements de l'équipe de France de la Fédération au Qatar, assurez-vous que les prestataires de services ou fournisseurs avec lesquels vous serez en lien respectent les droits humains de leurs employés. Voilà, donc il y a cette pétition en ligne. On aura aussi une carte postale que vous pourrez adresser aux joueurs de l'équipe de France. Alors, chaque carte de façon individuelle, donc cher Mbappé, cher Benzema, etc. Dans quelques mois, vous vous rendrez au Qatar avec l'équipe de France pour tenter de gagner la Coupe du Monde. Derrière les paillettes du Mondial, ce sont des milliers de travailleurs migrants qui construisent les stades, travaillent dans les hôtels, conduisent les taxis et servent dans les restaurants, souvent dans des conditions indignes. Vous les rencontrerez sans doute sur place. À quelques mois du coup d'envoi, exprimez publiquement votre solidarité envers tous les travailleurs de l'ombre de la Coupe du Monde. Les droits humains ne doivent pas rester sur la touche. On compte sur vous. Voilà. Vous pouvez rajouter un petit mot personnel, votre adresse signée et envoyer à votre footballeur préféré au Centre national de football à Clairefontaine. Voilà cette action. Nous serons donc présents le 29 juin sur la place de Digne pour la faire signer. Et puis à la rentrée aussi de septembre, on y agira sûrement pour cette action. Voilà, nous allons maintenant écouter une chanson de Patrice Martineau, « Les migrants ».
Ils surgissent, on ne sait trop d'où, de l'autre côté de la rive, sans un bagage et sans le sou, fuyant, dit-on, guerre et famine. Les uns s'en viennent d'Orient, où les jardins n'ont plus de roses, où l'or noir est pour les puissants, frères dont ils ne sont pas grand-chose. D'autres se perdent dans les flots et d'autres encore sur nos plages. s'échouent sur cet Eldorado qu'ils imaginaient sans nuages. Vogue les vagues de migrants au gré des passeurs et des vents sur des chaloupes de fortune. Que des peines dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Sous des mines patibulaires, les orbités le ventre creux, ils se résignent à leur manière à fuir leur ombre sous les cieux. Ils vont où les mène le vent, au-delà des roses des sables ou des jolies fleurs au Coran les revendront piteux esclaves. À la merci d'un vent mauvais, ils se prennent sans passeport. À Lampedusa ou Calais, les pieds dans l'envers du décor. Vogue les vagues de migrants, au gré des passeurs et des vents, sur des chaloupes de fortune. Que des veines dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Sur nos rivages endormis, qui n'ont de cocagne que le nom, se fracassent leurs utopies, nos déviances et nos questions. Ils vaguent aux abords de nos villes, si loin des leurs, si près des miens. Question de mort, question de vie, et sous quel masque je n'en sais rien. Vogue les vagues de migrants, au gré des passeurs et des vents, sur les chaloupes de fortune. Que des belles dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune. Vogue les vagues de migrants, au gré des passeurs et des vents, sur les chaloupes de fortune. Que des belles dérivant vers les faisceaux d'un Occident trop vieux pour leur offrir la lune.
Voilà, maintenant on va parler d'un risque énorme pour 6 millions de personnes qui sont sous-alimentées en Angola. Alors, on parle beaucoup de risques de famine dans le monde, notamment dû à la guerre en Ukraine et au blocage des ports qui empêchent les céréales de partir de l'Ukraine. L'Ukraine qui était un des greniers à blé de, non seulement de l'Europe, mais aussi de l'Afrique et d'autres pays. Donc, il y a un risque énorme de famine dans le monde. Et nous avons donc là une pétition qui s'adresse au président de la République d'Angola, que vous pouvez signer en ligne en allant sur le site amnesty.fr ou que vous pourrez signer si vous venez le 29 juin à Digne pour la fête de la solidarité. Donc voici le texte de la pétition. Je souhaite vous faire part de ma préoccupation relative à la longue période de sécheresse qui aujourd'hui encore ravage les moyens de subsistance des familles pastorales des zones rurales des provinces de Kunen et Huila. J'ai connaissance des difficultés économiques et sociales dues à l'épidémie du Covid-19 auxquelles l'Angola est confrontée et je reconnais les efforts des autorités en vue de faire reculer cette pandémie et de protéger la santé publique. Néanmoins, le gouvernement angolais doit adopter de toute urgence des mesures efficaces afin de protéger les moyens de subsistance des communautés traditionnelles du sud de l'Angola. Cela concerne 6 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Je vous appelle à fournir immédiatement une aide alimentaire d'urgence, soutenue et régulière, et un accès à de l'eau salubre pour la consommation et l'usage domestique dans les zones rurales des provinces de Kunen et Huila. Je vous demande de coordonner les efforts au niveau national, régional et international en vue d'atténuer les effets négatifs des risques liés au climat, de contrôler les déplacements de population dans le contexte des graves sécheresses et d'offrir des solutions durables aux personnes déplacées. Je vous appelle à mettre un terme à l'attribution des terres dans les zones rurales des provinces de Huila et Cunene et veillez à ce que les personnes responsables de l'attribution d'importantes parcelles de pâturage communautaire à des exploitations commerciales d'élevage soient amenées à rendre des comptes pour leur action passée, contraire à la législation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Donc voici une pétition que vous pouvez signer en ligne sur l'Angola. Et il y a d'autres pays qui sont menacés justement de famine un peu partout dans le monde. On va écouter maintenant Soprano, à nos héros du quotidien.
On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avait réanimé, et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Et on a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Et on a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Je voulais leur dire merci. Mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros, malgré eux. Je voulais leur dire merci.
Voilà, nous allons maintenant parler des MNA. MNA, ce qui veut
dire... Les mineurs non accompagnés.
Très bien, Odile.
J'ai bien retenu.
Tu as bien retenu. En effet, les mineurs non accompagnés font l'objet de deux articles de la lettre de la Commission droits de l'enfant. Alors, en fait, Amnesty International, la section française, nous sommes organisés en commission sur des thématiques. Donc il y a la commission femmes, commission personnes déracinées, et puis il y a de nombreuses commissions thématiques, et il y a la commission droits de l'enfant qui publie régulièrement une lettre sur la situation des enfants au regard des droits humains. Voilà, alors dans le dernier numéro, il y a deux articles concernant les mineurs non accompagnés. Le premier article nous parle de la publication d'un rapport le 3 février 2022 de la défenseuse des droits, Claire Hédon, et du défenseur des enfants, Éric Delemar. Ils ont publié une synthèse de leur travail sur les mineurs non accompagnés, appelés aussi mineurs isolés étrangers. Dans l'introduction, ils rappellent qu'avant tout, ces mineurs venant en France sont d'abord des enfants et que doit s'appliquer pour eux l'article 20 de la CIDE, Convention internationale des droits de l'enfant. C'est le texte le plus signé et ratifié du monde, hein, puisque tous les États l'ont signé et ratifié, excepté les États-Unis et la Somalie. Et que dit cet article 20 ? Il stipule que tout enfant, temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État, y compris les enfants demandeurs d'asile, réfugiés ou migrants, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l'immigration ou de leur apatrie. En fait, la position de la défenseure des droits à leur égard est constante. Tout jeune se disant mineur et isolé doit être considéré comme un enfant à protéger, relevant de ce fait des dispositions légales de la protection de l'enfance et non comme un étranger relevant de la compétence de l'État. Cette position est conforme à la jurisprudence européenne, mais la réalité française est tout autre. La défenseure des droits constate qu'en 10 ans, se sont succédées évolutions et modifications du cadre légal qui leur est appliqué, opérant un glissement progressif du droit commun de la protection de l'enfance vers un véritable droit d'exception s'alignant sur le droit des étrangers. Progressivement s'installe l'idée que ces mineurs devraient être considérés comme des migrants et donc traités comme tels, et non comme des enfants que le droit impose de considérer avec une particulière attention. En parallèle de ces évolutions législatives, le regard que la société porte sur ces mineurs a évolué au gré de divers événements. Ils sont tour à tour l'objet de soupçons sur leur âge, leur trajectoire, leur histoire et les motifs de leur arrivée, ou d'admiration lorsque certains d'entre eux sont portés au devant de la scène médiatique, érigés en modèle de réussite. L'accès au dispositif de protection de l'enfance. Cet accès implique une évaluation de la minorité et de l'isolement de la personne se déclarant mineure, privée temporairement ou définitivement de la protection de la famille. Le défenseur des droits rappelle que les jeunes exilés, se disant mineurs, doivent être considérés comme tels et jouir immédiatement des droits à la protection s'y rattachant, le cas échéant jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire définitive. Les mineurs non accompagnés sont confrontés à des processus d'évaluation peu respectueux de leurs droits, à la remise en question de leur état civil, de leur identité, de leur parcours, de leur histoire, et à des réévaluations multiples de leur situation, ce qui est complètement interdit par la loi. La défenseure des droits regrette à nouveau que des examens d'âge osseux ne soient pas proscrits par la loi. Nous avons sur Digne des exemples d'enfants dont on a fait un examen osseux pour évaluer l'âge. Il est manifeste que dans nombreuses situations, l'accompagnement des mineurs non accompagnés n'est pas le même que celui des autres enfants pris en charge par la protection de l'enfance. Elle constate par exemple régulièrement que de nombreux mineurs non accompagnés sont hébergés en hôtel sans accompagnement éducatif. Il en résulte une discontinuité de l'accompagnement de ces adolescents et un accès à leurs droits peu effectif, les mineurs restant livrés à eux-mêmes, sans réel accès à la santé, parfois même non scolarisés, avec le risque d'être entraînés dans des réseaux de délinquance. Elle demande que les mineurs non accompagnés doivent, en toutes circonstances et quel que soit leur statut, en cours d'évaluation ou confiés durablement à l'aide sociale à l'enfance, être assurés du respect de leurs droits fondamentaux à l'identité, à l'éducation, à la santé et aux loisirs. Elle recommande que le mineur bénéficie d'une présomption de minorité jusqu'à décision judiciaire définitive le concernant. Or, et ça se voit dans notre département, des évaluations mettent en doute l'âge, mettent en doute les papiers, mettent en doute le parcours. Et ces enfants sont envoyés à Marseille. On ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que c'est peut-être gênant qu'ils dorment dans les rues de Digne. Ils sont envoyés à Marseille et s'ils ne sont pas accueillis par quelqu'un au titre de la fraternité, ils ont du mal à faire le recours auprès de la juge des enfants, recours qu'ils ont le droit de faire. Hein. Et tous les enfants que nous avons suivis ont fait des recours à la juge des enfants et tous ont été reconnus mineurs. C'est donc bien la preuve que l'aide sociale à l'enfance remet des enfants à la rue. Et donc, on voudrait que ces enfants soient protégés jusqu'à la reconnaissance officielle de leur minorité ou de leur majorité, mais par la juge des enfants qui est la seule à pouvoir décréter cela. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc, il y a ce rapport que vous pouvez trouver en allant sur le site de la Défenseure des enfants, hein, Claire Hédon. Ce rapport très complet, hein, il y a une synthèse, mais le rapport est extrêmement complet. Ça, c'était en février. Et puis en mars dernier, l'ONU, via le Comité des droits de l'enfant, a confirmé avoir ouvert une enquête visant la France concernant le sort des mineurs non accompagnés sur le territoire national. Cette saisine du comité s'est faite sur la base d'un rapport de 80 pages réalisé par un collectif d'associations dénonçant le traitement des mineurs non accompagnés en France. Donc le Comité des droits de l'enfant, qui est chargé de faire respecter la Convention des droits de l'enfant, a le pouvoir d'inviter l'État français à coopérer à l'examen des renseignements que lui ont fournis plusieurs ONG, dont le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Dans le cadre de ce type d'enquête, le Comité des droits de l'enfant peut organiser une visite sur le territoire national, sous réserve de l'accord du gouvernement français. Le protocole facultatif prévoit que cette enquête se déroule dans la confidentialité et que l'État, en l'occurrence la France, sans être contraint de coopérer, peut être sollicité à tous les stades de la procédure. Rien n'est encore joué, car rien ne garantit que le futur gouvernement coopérera de manière volontaire et transparente pour faire toute la lumière sur la situation alarmante de ces enfants. Une enquête déclenchée sur la base d'un rapport dénonçant des violations graves et systématiques des droits des mineurs non accompagnés. Cette décision vient d'une recherche approfondie dont les résultats ont abouti à la présentation de cette communication. Alors, ils ont relevé 10 violations majeures des droits fondamentaux de l'enfant. Je vous en cite quelques-uns. Des informations de sources officielles révèlent que les actes d'état civil du mineur non accompagné font l'objet d'une suspicion généralisée. Des protocoles officiels prévoyant que certains documents doivent être a priori considérés comme non valables. L'évaluation de la minorité de ces enfants est conduite à charge, certains protocoles officiels prévoyant leur réalisation directement au poste de police, et cette évaluation est réalisée à partir de critères subjectifs, tels que l'apparence physique, et de méthodes telles que les tests osseux, pourtant condamnés par le comité lui-même ainsi que par le corps médical à de multiples reprises. Ces pratiques constituent des violations du droit à l'identité de l'enfant de la Convention. La Convention instaure un véritable déni de minorité qui prive l'enfant de la protection de l'État et de tout accès aux droits qui lui sont reconnus par la Convention. Des informations fiables révèlent aussi que, contrairement aux recommandations du Comité ainsi qu'aux droits français, ces enfants se voient fréquemment refuser une protection au motif que leur minorité est contestée, contrevenant au principe de présomption de minorité. Ces pratiques constituent des violations au principe de protection inconditionnelle de l'enfance, prévu aux articles 3, 6, 19, 20, 27, 34 et 36 de la Convention. La majorité des normes nationales ou locales impactant directement ou indirectement les mineurs non accompagnés sont adoptées sans évaluation préalable de leur impact sur l'intérêt de l'enfant et font manifestement primer d'autres intérêts tels que la lutte contre l'immigration régulière. D'autre part, en fonction des départements, en 2019, le taux de reconnaissance de minorité entre départements variait de 16,6% à 100%. Le ministère de la Justice français lui-même, dans un rapport de 2018, a noté que les différences de traitement entre départements pouvaient avoir des conséquences lourdes sur l'avenir des mineurs non accompagnés. L'organisme français de protection de l'enfance lui-même admet que les bilans de santé des enfants migrants non accompagnés ne sont pas systématiques, la prise en charge des psychotraumatismes de ces mineurs est quasiment inexistante et l'ouverture à la couverture de l'assurance maladie durant la phase d'évaluation est très rare. Ces éléments empêchent le mineur d'avoir accès aux soins de manière effective. Les violations dont il est fait état dans la présente communication sont systématiques. En effet, il s'agit de violations institutionnelles généralisées et enracinées dans le cadre juridique dérogatoire au droit commun de la protection de l'enfance et faisant primer la lutte contre l'immigration irrégulière et des considérations financières sur l'intérêt des mineurs non accompagnés. Voilà, donc nous demandons que l'intérêt de l'enfant soit primordial. Voilà. Il y a donc une jeune association qui s'est créée à Adine, qui s'appelle Association de soutien aux jeunes isolés étrangers. Ici et maintenant, vous pouvez transformer une vie. Vous pouvez donc adhérer à cette association, soutien aux jeunes isolés étrangers. Vous pouvez héberger un jeune réfugié chez vous, dont la minorité contestée, jusqu'à ce que la juge des enfants le reconnaisse mineur. En France et dans les Alpes-de-Haute-Provence, il y a des réfugiés mineurs qui ont le droit d'être ici et qui ont besoin de tout pour refaire leur vie. Le principe de fraternité étant inscrit dans la Constitution, notre association a pour but de leur protéger une aide concrète pour qu'ils soient hébergés, scolarisés, munis de papiers en règle et enfin lancés sur une nouvelle trajectoire personnelle et professionnelle. Voilà, donc l'association a besoin de toutes les compétences, qu'elles soient juridiques, administratives, pédagogiques, et de bonne volonté pour accueillir un jeune ou tout simplement soutenir cette association. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à adhérer à notre association, à cette association. Elle s'appelle Soutien aux jeunes isolés étrangers. Son siège social est 10 Impasse des Augiers, 04000 Digne-les-Bains. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre le 29 juin à la fête de la solidarité à Digne à partir de 17h. Et cette association sera présente à côté d'Amnesty International. Donc vous aurez les bulletins d'adhésion. Voilà, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, on en connaît beaucoup et ce sont des jeunes formidables quand on leur donne la chance d'étudier, de travailler. Ils font le bonheur aussi de leur patron, hein, parce que ils sont travailleurs, ils ont envie d'apprendre. Voilà, il faut leur donner cette chance. On va maintenant écouter une chanson d'Ayam, Habitude, qui a été chantée pour la fondation de l'abbé Pierre.
Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés, depuis ce matin je marche. Mais là mes pieds sont lasses, il faudrait que je pense à me poser. Que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes. Et ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y'a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays part en vrille. Je suis là par manque de chance. La vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois. Comme ceux qu'on retrouve le matin gelés et morts de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile doucement, je deviens une simple habitude.
On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées, sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité, je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête.
« On vit l'hiver, gelé par la honte. Le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange. Chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir, on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes. Rien qui nous retient ici, ni maison, ni repère. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles. On brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chasse parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde, faire semblant de ne pas me voir, ça me marque. Plus que le temps a tué, sur le goudron une tache dans ce parc. Vos noms dits qui en disent long me rattrapent. Et parmi nous beaucoup se résignent. Face au mépris, le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut.
On me voit plus. Je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus. Je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité. Je suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête. On ne me voit plus.
Voilà, alors les activités de notre groupe. Il y a eu jeudi 16 juin au Ciné-Étoile un film avec débat organisé par RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, Amnesty International et l'association dont je vous ai parlé, Soutien aux jeunes isolés étrangers. Nous avons passé Les mots d'otage de Dominique Choisy. C'est un film magnifique sur l'histoire d'un jeune Afghan qui a fui son pays quand il avait à peine 14 ans. Il a mis toute l'année de ses 14 ans pour arriver jusqu'en France, en passant par l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l'Allemagne, la Suisse, jusqu'à la France. Et il décide, avec le réalisateur du film, Dominique Choisy, 7 ans après, de faire le voyage à l'envers. Alors que maintenant, il a été adopté, il est français, il a la double nationalité, il est afghan et français. Il fait des études supérieures, mais il veut témoigner de ce qu'il a vécu, pour ceux qui ne peuvent pas parler. Et donc, le film est original parce que, donc maintenant, à 21 ans, il refait ce voyage à l'envers. Et donc, on le suit. De rencontre en rencontre, il retrouve des personnes qu'il avait rencontrées sur son parcours. Il rencontre aussi au hasard d'autres Afghans qu'il ne connaissait pas, mais avec qui il parle. Et c'est très émouvant. Alors, c'est quelqu'un qui a un fond optimiste, mais on sent aussi qu'il a vécu tellement de choses dures que ça ressort des fois dans le regard, hein. Il a vu, par exemple, des gens se noyer alors que sa barque avait coulé. Lui, il a été sauvé un peu par miracle, mais il a vu des gens qu'il connaissait, qui étaient sur ce bateau, couler au fond de la mer. Hein. Il a reçu des balles à la frontière iranienne. Hein. Il a failli mourir plusieurs fois. Il a vécu des gestes de solidarité. Il a vécu aussi ce qu'on entendait dans la chanson précédente, le fait d'être un peu invisible, les gens qui ne vous regardent pas. Et il n'avait que 14 ans. C'est inimaginable tout ce qu'il a vécu. C'est un film vraiment magnifique. Et donc le réalisateur, Dominique Choisy, était présent. Et il a expliqué un petit peu la façon de tourner. Et le film se termine donc en Afghanistan. Voilà, sur l'image de ce jeune homme dans son pays. Voilà, si vous avez l'occasion de venir voir ce film, je vous le conseille. Il est vraiment magnifique. Voilà, alors Nous allons donc le mercredi 29 juin participer avec d'autres associations à ce qu'on appelle Fête de la solidarité. Fête, F-A-I-T-E-S, du verbe faire. Hein. C'est aussi la fête, F-E-T-E, accent grave, T-E, de la solidarité. Donc il y aura beaucoup d'associations de solidarité présentes et on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu ludique. Donc n'hésitez pas, venez mercredi 29 juin, 17-18h, sur la grande place de Digne pour faire la fête avec nous et nous rencontrer. Voilà, et puis j'ai une petite annonce à faire avant d'écouter la dernière chanson. Vous savez qu'Amnesty organise des foires aux livres régulièrement, depuis plus de 20 ans. Voilà, on a plus le local qu'on avait, qui était bien pratique. Donc on a des amis qui nous ont prêté une cave, qui est très bien, qui est sèche, tout ça. Mais le problème, c'est les escaliers à monter, à descendre avec les caisses de livres. C'est très difficile. On recherche sur Digne ou dans la région un local qu'il faut qu'il fasse 8-9 mètres carrés. Pas besoin d'être immense non plus. Qu'il soit de plein pied. Alors l'idéal, c'est qu'on nous le prête, mais on pourrait payer un petit loyer pour ce local. Donc si vous connaissez un local sur Digne qui d'à peu près 8-9 mètres carrés, de plein pied, qu'on puisse venir avec la camionnette et décharger et charger facilement nos caisses de livres. Merci de nous le signaler, peut-être par la radio. Ou
Alors si vous voulez le signaler par la radio, vous avez une adresse mail, digne@frequencemistral.com, pour envoyer donc vos disponibilités de prêts. C'est ça, hein, un prêt pour, pour aider Amnesty International à stocker des livres.
Voilà,
à Digne.
À Digne ou pas loin, quoi. Hein, un village autour, on peut faire quelques kilomètres. Hein, on nous prête la camionnette du Secours Populaire. Et puis, voilà. L'important, c'est que ce soit de plein pied parce que vraiment, les escaliers, c'est quand même fatigant. Surtout qu'on n'est plus tout jeune. Voilà. Donc on va finir en chanson, mais on va écouter Brassens, hein, chanson pour l'Auvergnat.
Et puis on se dit peut-être à la rentrée.
On se dit à la rentrée. Hein,
voilà, en septembre. Bon été Régis.
Bon été à tous.
À bientôt. On se retrouve donc le 29 juin, fête de la solidarité à Digne pour les stands d'Amnesty aussi. Au revoir.
Merci, au revoir.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel,